OK, si vous voulez tourner dans Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19, verset 20. Je vais vous lire le texte dans cette version-là, la seconde 21. Je suis sûr qu'il y a Timothée dans la gang de Bible qu'il y avait, il va sûrement l'avoir ce matin. Il l'a pas, celle-là. Mais la raison pourquoi je lis dans cette version-là, c'est pour nous éviter de faire la conversion des heures. Parce que là, vous allez voir, quand je vais lire, vous n'aurez pas la même... Si vous avez une seconde ou une Scofield ou peu importe, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les Juifs, la journée commençait à 6 heures là, du matin. Puis quand on voulait avoir, 3 heures que de plus, là, bien, ça voulait dire 6 plus 3. Quand on lit dans la Bible à la troisième heure, ça voulait dire qu'il était 9 heures, là, c'est du matin. Mais dans la version seconde, on lit comme ça, c'est clair. Alors, ça va vous éviter de faire la conversion là, des heures. Là. Fait que c'est la seule raison pour laquelle j'ai choisi de lire le texte dans cette version-là. Alors, Matthieu, chapitre 19, verset 20. C'est écrit « Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher. Comment? Ah, vous êtes où, vous autres? Hein?
Matthieu 19, chapitre 20, ça marche pas.
Ah, excusez, non, Matthieu 19, 30.
Ça, c'est avec la conversion.
Non, mais je vous ai dit quoi tantôt? Hein? 19, 20? Ben vous écoutez, c'est bon. Fait qu'on va pouvoir se rendre jusqu'au bout comme ça. Alors, Matthieu 19, verset 30. Puis ensuite, c'est 20 à aller jusqu'à 16. Alors, je recommence. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Chapitre 20, verset 1. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste » ou dans d'autres versions, « ce qui sera raisonnable ». Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant, « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Oui, notre Dieu et Père, on veut vraiment se placer devant toi, parce que lorsqu'on veut essayer de comprendre ou interpréter les écrits, nous avons vraiment besoin de ton aide, nous avons besoin de ton esprit. Alors, on te prie de disposer nos cœurs, afin qu'on puisse bien entendre, qu'on puisse bien recevoir cette parole. Et c'est pour la gloire et au nom du Seigneur Jésus-Christ que je te demande ces choses. Amen. OK, alors quand on lit cette parabole-là, là, qui en passant, c'est la parabole des ouvriers. Alors quand on lit cette parabole-là, à première vue, C'est comme mêlant un petit peu, hein? C'est même choquant. C'est troublant. Puis je dirais même, c'est antisocial. Dans le sens que si un patron agirait de la sorte, ça ne serait pas trop long qu'il y aurait un syndicat qui tomberait d'en face. Puis on pourrait comprendre aussi. On pourrait même dire que ça dénote une certaine forme d'injustice dans ce qu'on a lu là. Parce que ceux qui n'ont pratiquement rien fait reçoivent le même salaire de ceux qui ont passé la journée à suer puis à travailler fort. Il y a un illogisme là qu'il faut essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce que Jésus veut faire comprendre à ses auditeurs à travers la parabole qui vient de leur donner? On a la réponse au verset 1 du chapitre 20. Le Seigneur dit, « Le royaume des cieux ressemble ou encore est semblable à. » Ce que le Seigneur veut que les gens comprennent, c'est regarder à quoi ressemble le royaume des cieux. Parce que logiquement, l'histoire ne fait pas de sens. À moins qu'on ait un patron qui est un très mauvais gestionnaire ou c'est quelqu'un qui veut gaspiller son argent. Finalement, c'est lui le boss. Il a beau bien faire ce qu'il veut avec son argent. Alors, à moins que ça soit ça, ou encore que Jésus encouragerait le favoritisme. Ceux qui ont travaillé très peu vont avoir autant que ceux qui ont travaillé à plein. Ça fait-tu du sens, cette affaire-là? C'est-tu dans la façon de procéder de Dieu? Ou encore, est-ce qu'il encourage la nonchalance, la paresse? En tout cas, c'est clair que c'est pas ça que Jésus a voulu dire. Alors, quand Jésus, il raconte une parabole, il y a souvent un événement qui l'a précédé ou qui l'a provoqué. Quand Jésus annonçait une parabole, il s'était passé quelque chose avant, ou il avait rencontré quelqu'un avant. Et ici, on a le cas de... C'est la rencontre de Jésus avec un jeune homme riche. On lit ça dans Matthieu 19, verset 16. Où ce que c'est écrit, « Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Alors, c'est à partir de ça que là, Jésus a parlé de cette parabole-là. On a affaire ici à un jeune homme qui était très pieux, puis qui devait sans doute aimer Dieu. Ça, on ne mettra pas sans doute. Mais lui, il pensait trouver l'approbation de Dieu en obéissant scrupuleusement à la loi. Il pensait que parce qu'il faisait ça, là, ça allait être comme correct. Mais son problème, c'était que malgré ce qu'il croyait être une pratique religieuse de grande qualité, il était loin d'être assuré d'avoir la vie éternelle. Parce que c'est ça qu'il demande à Jésus. « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, comme je vous disais, son problème, c'est qu'il n'est pas assuré d'avoir la vie éternelle. Mais lui, au moins, il s'en rend compte. Comparativement aux chefs religieux, aux scribes puis aux pharisiens qui côtoyaient Jésus, qui, eux, avaient la conviction que le salut, c'était une récompense logique à une vie pieuse quand on accomplissait scrupuleusement la loi. Si on était obéissant et qu'on faisait tout ce que la loi demandait, bien là, c'était bon signe pour nous. Ça nous assurait même que probablement les portes du ciel allaient s'ouvrir. Autrement dit, c'est quelque chose qui, selon eux, leur était dû. J'ai été fidèle, j'ai été obéissant, ben Seigneur, tu me dois quelque chose. Alors la parabole que Jésus va leur amener va tout défaire ça. Ce que Jésus il veut leur faire comprendre, c'est qu'ils sont peut-être les premiers, les les premiers à avoir reçu la révélation divine. Parce qu'on sait que Dieu a donné sa parole premièrement aux Juifs. C'est eux qui ont reçu la révélation de Dieu. Alors, c'est à eux, les Juifs, que Dieu avait donné sa parole, mais qu'au final, ce que Jésus veut qu'ils comprennent, c'est qu'ils risquaient fort d'être les derniers s'ils continuaient à penser avoir une place dans le plan de Dieu en gardant leurs pratiques religieuses, leurs convictions, puis leur souci de respecter, encore là, minutieusement la loi. Les pharisiens, c'était des moyens zélés. Ils en faisaient plus que ce que le client demande. Puis souvent, on voit ça dans les entretiens entre Jésus et les chefs juifs. Il y a des juifs un jour qui ont demandé « Comment ça que tes disciples ne se lavent pas les mains avant de prendre leur repas? » Parce que selon la loi, eux autres, c'était capital, il fallait avoir les mains propres pour ne pas se souiller. Alors Jésus dit « Mais tu sais, il ne lui a pas dit ça de même, mais il veut leur faire comprendre. » Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. C'est quoi? C'est ce qui sort de la bouche qui démontre ce qu'il y a dans le cœur. Ce n'est pas ce qui rentre qui va vous souiller, c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort, ça vient de votre cœur. Et votre cœur, vous ne l'avez peut-être pas compris encore, mais il est souillé. Alors c'est ça que les Juifs ne comprenaient pas et qui auraient dû comprendre. Et le but encore de cette parabole-là, c'est d'aller dans ce sens-là. Alors, c'est devant ce choix-là que Jésus place aussi le jeune homme riche. Abandonner ou garder ses pratiques religieuses pour le suivre, lui, le Seigneur Jésus. Regardez ce qu'on lit dans Matthieu 19, verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ses commandements. » Autrement dit, tout ce que la loi dit, je l'ai respecté. Dès ma jeunesse, qu'est-ce qui me manque encore? Alors Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Verset 22, « Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » C'est un des rares personnages qui, après avoir rencontré le Seigneur Jésus, s'en retourne tout triste. Pour quelle raison? Parce qu'il veut garder, plutôt que d'abandonner. Puis la vie chrétienne, c'est ça. Si tu veux garder du stock, tu vas bloquer. Le Seigneur demande tout, donne-lui et il va te combler. Alors, quand je vous ai lu le texte tantôt dans notre lecture du début, vous avez sûrement dû remarquer que le premier verset qu'on a lu, avec le dernier, disent pratiquement la même chose. C'est-à-dire, bien ou plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Puis verset 20, Matthieu 20, j'ai de la misère avec quel verset puis chapitre. Matthieu 20, verset 16, « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Alors Dieu renverse les valeurs des hommes. C'est ça qu'il faut bien saisir. La façon de penser de Dieu, ce n'est pas la façon de penser des hommes. Et gardez toujours ce principe-là à l'esprit lorsqu'on veut comprendre, entre autres, la parabole des serviteurs. Alors, dans le monde, les hommes sont évalués selon leur productivité, selon ce qu'ils vont produire. Ce qui fait la valeur de quelqu'un, c'est ce qu'il produit ou ce qu'il rapporte. Ceux qui font rien sont souvent traités de parasites inutiles. Mais ce n'est pas sous cet angle-là que le Seigneur Jésus voit les êtres humains. Nous, les méchants êtres humains qu'on est, quelqu'un qui ne fait rien, il ne vaut rien. Non? Souvent, c'est de même qu'on va les classer. Mais Jésus, lui, ce n'est pas de même qu'il va évaluer les gens. Tous ceux qui se tournaient autour du légalisme. Quand je parle de légalisme, je veux dire un souci de respecter minutieusement la loi, comme le jeune homme riche qu'on vient de voir, et comme les chefs religieux du temps de Jésus. Eux avaient un seul tracas, c'est de respecter dans les moindres petits détails la loi. Et souvent, ils en rajoutaient. Pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains? Le Seigneur a dit, c'est pas ça qui est grave, c'est pas de se laver les mains, de ne pas se laver les mains et manger qui est grave. C'est ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche, c'est ça qui révèle votre état d'âme. C'est ça qui révèle qui vous êtes. Mais les Juifs n'avaient pas vu ça de même. Ils n'avaient pas vu ça du même angle. Eux, il fallait se laver les mains, être propre. Quand on revenait de la place du marché, se laver les pieds et les mains pour pas, tu sais. Toucher un mort, eux autres, c'était une contamination épouvantable. Seigneur Jésus-Christ, il touchait les morts puis il les ressuscitait. Alors pour lui, il n'y avait rien de grave dans ça. Mais pour les chefs religieux, c'était abominable. Un respect de la loi d'une façon insensée, illogique, parce qu'ils n'étaient pas capables de voir à l'intérieur d'eux-mêmes la dureté de leur cœur. Et les êtres humains, c'est ça qu'ils doivent examiner quand ils veulent être réels que devant Dieu. Alors, tous ceux qui se tournaient autour du légalisme, donc, pouvaient avoir cette tendance-là à se comparer aux autres en soulignant la supériorité de leur obéissance à l'Écriture. Et nous, on est fidèles. Nous, on est obéissants. Puis on en fait même plus que ce qui est demandé dans la loi. Alors, eux, ils soulignaient la supériorité de leur obéissance puis combien ils étaient investis fidèle, persévérant dans le service de Dieu. C'est comme s'il envisageait le fait que, ben finalement, Dieu, il n'y aura pas d'autre choix que de nous donner une place privilégiée dans son royaume. Et après avoir vu tout ce qu'on a fait, il ne peut pas faire autrement. Il va falloir qu'il nous donne des places exemplaires parce qu'on a été fidèles, obéissants. Ça, c'était leur façon de voir. Mais savez-vous quoi? Cette façon de voir-là, ça peut aussi guetter les chrétiens. C'est bizarre à dire, hein? Mais ça peut aussi guetter les chrétiens. Dans le sens que plus je vais en faire, mieux c'est. Quelle compréhension qu'il y en a? Je vais en faire. Plus que je vais en faire, plus Dieu va être content. Je vais juste vous glisser ça de même, là, si c'est la compréhension qu'on a des choses, faut que j'en fasse. C'est exactement ce que le jeune homme riche disait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon pour avoir la vie éternelle? Alors, si on s'imagine ça devant Dieu, peut-être que Dieu va nous montrer, gars, mon jeune homme ou ma jeune femme, il y a peut-être ce point-là, là, tu n'as jamais considéré, mais le problème se trouve là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas-tu abandonner ou tu vas continuer? La vie chrétienne, on le dit souvent, c'est une relation avec le Seigneur Jésus, avec Dieu. On lui parle, il nous parle. Et lorsqu'il nous parle, comment qu'on réagit? Surtout s'il touche à quelque chose de sensible. Alors, ce qu'on doit bien saisir, c'est que les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Exemple, on peut peut-être considérer le prophète Élie comme étant l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez ce qu'a fait Élie, hein? Il a fait en sorte qu'il a confronté les prophètes de Baal, puis il les a tous fait en sorte qu'ils, ben, il les a pas ridiculisés, mais ça a fait en sorte que ça a viré de main, puis il les a tous tués. Alors, on peut considérer le prophète Élie comme étant un des plus grands prophètes. Pourtant, dans le Nouveau Testament, Jacques, chapitre 5, verset 17, il nous dit, « Élie était un homme de la même nature que nous. » Ce n'est pas un super-héros, Élie. C'est un homme comme vous et moi. Nous, on a une façon d'évaluer les gens qui n'est pas celle de Dieu. C'est bien d'évaluer les gens, d'avoir du respect, d'avoir de la considération, d'avoir du, de dire ah, lui, je trouve que c'est un bon chrétien, il fait des bonnes choses, puis il est encourageant à voir. Ça, c'est correct, ça. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'on se considère comme étant des « mais pas bon » puis des « nuls », là. Mais le but, c'est le but, là. C'est comment est-ce que ça brasse en 50 dedans. Le message de Jean-Baptiste, il avait été rejeté par les autorités religieuses de son temps. Pourtant, Jésus, il a dit de lui, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alors, les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Verset 1 du chapitre 20 nous dit que le royaume des cieux ressemble à. Jésus va nous parler de ce royaume où c'est lui qui est le roi, où sa volonté est souveraine. C'est lui qui est le souverain maître au ciel. Dans notre société, les hommes et les ouvriers travaillent pour un salaire. Dans le temps de Jésus, c'est la même chose. Un denier ou une pièce d'argent, c'était un salaire normal pour une journée de travail. Alors, dans la parabole qu'on a lue tantôt, c'est ce qu'on voit. Entre autres, au verset 1, 2, dans Matthieu 20, je vais le relire. « Le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. » Alors, il y a un contrat ici qui a été établi entre le propriétaire et les ouvriers. Une journée de travail, une journée de salaire. Parfait. On a dealé ça, ça va être correct. Pour eux, les choses sont claires. C'est pour les autres que c'est moins clair. Verset 3 et verset 4. Il sortit vers 9 heures du matin, ayant vu d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Alors, pour eux, il n'y a pas de contrat de travail, mais une promesse. Je vais vous donner ce qui est juste. Mais les gars, ils n'ont toujours pas aucun chiffre, là. Ils vont juste recevoir ce qui est juste. Alors, pour ce qui est des derniers embauchés, ceux de midi, 3 heures, de l'après-midi, puis de 5 heures, c'est encore plus vague. Eux n'ont aucun contrat ni aucune promesse. Au verset 7, dans la version que je vous ai lue, c'est marqué, « Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui est juste. » Mais dans ma version, « et vous recevrez ce qui est juste », c'est écrit entre des crochets. Ce qui veut dire que ça ne fait pas partie du texte original, ça. Alors, quand on lit le verset 7, ce qu'on devrait lire, ça serait, « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Mais ils n'ont aucune idée du salaire qu'ils vont faire, les autres. Là. Le propriétaire, il les envoie « Allez à ma vigne. » Puis ils vont. Matthieu 20, chapitre 1 encore. « Le royaume des cieux ressemble à quoi? » À la parabole que le Seigneur est en train de raconter. Si le royaume de Dieu était semblable à une société humaine, ce qui se passe dans l'histoire n'aurait pas d'allure. Parce que les derniers engagés reçoivent le même salaire que les premiers qui ont duré toute la chaleur du jour, qui ont travaillé, qui ont sué. Ils ont le même salaire que ceux qui ont travaillé une heure. Ça ne fait pas de sens trop. Là. Pour les premiers, ça a été un marché conclu, comme on a vu. Pour le deuxième groupe, ils vont sur une simple promesse. Puis les derniers, eux, c'est « Allez aussi à ma vigne ». Aucune promesse, aucun contrat, rien. Ah, c'est qu'allez-y. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du patron, le propriétaire? Bien, au verset 2, il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Alors, le propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a respecté ses engagements. C'est un gars honnête. Je vais vous donner ça. Bingo. C'est qu'on part. À partir du moment où il observe le contrat avec les premiers employés, il n'y a rien qui l'empêche de faire preuve de générosité ou s'il veut même de gaspiller son argent. C'est à lui. Il peut bien faire ce qu'il veut. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à ceux qui sont venus vers lui pour se plaindre. Matthieu 20, chapitre 13, verset 13. Matthieu 20, 13. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Alors, le royaume des cieux ressemble à rien de ce que les hommes sont habitués de voir ou de comprendre. Ben, c'est ça le but de la parabole. Le royaume des cieux est semblable à, mais ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué de comprendre, nous, ou même de voir. Dans le monde, on l'a vu, ce qui fait la valeur de quelqu'un, c'est ce qu'il produit, c'est sa richesse. Mais ici, la parabole nous parle du royaume des cieux. Là où Dieu est roi, là où il fait ce qui lui plaît, et ce qui lui plaît est toujours bon, droit, juste et équitable. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? On a dans ce récit-là le dévoilement de la nature humaine. Je fais du bien, vois-tu d'un mauvais œil que je fasse du bien? Ceux qui ont commencé le matin, ils ont eu exactement ce qui était convenu, et pourtant, ils sont jaloux des autres qui ont reçu le même salaire pour avoir travaillé moins d'heures. Et honnêtement, là, si on veut l'admettre, ça nous paraît injuste à nous aussi, dans notre compréhension là, qu'on a de la façon de fonctionner du monde. Quelqu'un qui ferait ça là, dans une compagnie, ben, il va y avoir un mouvement syndicaliste qui va faire en sorte que s'il n'y a pas de vitre cassée dans sa shop, ça va être beau. Là. Mais ça prouve que vis-à-vis le royaume de Dieu, on doit adopter une toute autre façon de penser. Ici, on a la perspective du royaume de Dieu et non celle du monde. Pensons en fonction du royaume de Dieu et comment ça marche dans ce royaume-là. On doit abandonner notre vision compétitive et accepter celle du Seigneur. Parce que le propriétaire savait que ces hommes-là avaient besoin d'argent. Il a sorti dehors pour aller en chercher. Il savait que les gens avaient besoin d'argent pour vivre, prendre soin de leur famille. Alors, ce que le propriétaire fait, il les paye selon leurs besoins et non selon leurs mérites. Voyez-vous à quoi ça ressemble maintenant le ciel? On ne va pas au ciel parce qu'on le mérite. On va au ciel parce qu'on a besoin d'y aller. Et on a besoin d'y aller, pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains perdus. Personne n'avait reçu moins, mais tous ont reçu ce qu'ils avaient besoin pour eux. Alors, la leçon à tirer, c'est que celui qui pense pouvoir faire un marché concernant les récompenses de Dieu, il a tort. Et plus on médite cette parabole-là, plus on réalise que ce n'est pas seulement honnête, mais c'est tout à fait admirable. Ceux qui ont été engagés à 6 heures du matin devraient plutôt considérer le fait d'être choyés d'avoir travaillé pour un si bon boss. Est-ce que c'est de même qu'ils l'ont vu? Non. Est-ce que c'est de même qu'on le verrait? Je ne sais pas. Mais c'était un excellent patron. Il donne autant au dernier qu'au premier. En connaissez-vous bien des boss de même, vous autres? Ils vont vous donner, si tu es un bon travailleur, je vais t'aimer, je vais te donner des augmentations. Les autres, là. Alors, en résumé, le royaume de Dieu, c'est pas le monde. C'est même l'opposé de la façon de fonctionner du monde. Dieu ne doit rien à l'homme, et même aux plus religieux. Et pour ceux qui penseraient que Dieu va être obligé de faire des différences entre les personnes parce qu'elles ont plus de mérite, qu'elles sont plus douées que les autres, ils ont plus de bonnes œuvres, cette parabole-là défait tout ça. Puis en plus, la parole de Dieu nous confirme un aspect important sur la nature de Dieu. Quand on lit dans Romains 2, 11, on lit « Devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. » Dieu n'a pas de favori. Vous autres, est-ce que vous en avez?
Oui.
Ben oui. Bien souvent, on en a. Moi, je préfère les Canadiens de Montréal que les Bruins de Boston. Non, mais vous savez ce que je veux dire, là? On a des favoris, mais devant Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Quand Pierre avait été chez Corneille, puis qu'après avoir parlé, il a vu que les gens qui étaient des non-juifs recevaient le Saint-Esprit, puis commençaient à parler en langue, Pierre, il a dit quoi? Il dit, ouais. Il dit, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Autant les juifs comme les non-juifs, ils ont de la valeur pour Dieu. Et il l'a prouvé, il drette là encore. Alors, cette parabole-là signifie aussi un autre point capital. C'est que le royaume de Dieu n'est bâti que sur une seule loi. La loi de la grâce. La grâce ne repose pas sur un système économique avec un salaire payé en fonction d'un travail accompli. Sinon, ce n'est pas de la grâce. Si tu payes quelqu'un parce qu'il a fait une job, ce n'est pas de la grâce. La grâce a même des apparences d'injustice. Les ouvriers qui ont travaillé qu'une seule heure touchent la même chose que ceux qui ont travaillé toute la journée. Ça, c'est une démonstration de ce que c'est que la grâce. Charles Swindoll, il a écrit un livre qui s'appelle « Éveil à la grâce ». Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu, ce livre-là? Dans ce livre-là, Swindoll, il dit « Certaines personnes peuvent mal comprendre et mal interpréter le message en disant qu'il se résume à ceci. Ce que vous faites n'a plus aucune importance parce que vous êtes sauvés par la grâce seulement. Vous pouvez pécher autant que vous voulez, parce que tout cela contribuera à donner plus de gloire à la grâce. » C'est pas faux ce qu'il dit, mais c'est dangereux. C'est glissant, parce que ça peut être mal compris et mal interprété. Paul a même dû corriger cette situation-là lorsqu'il a parlé aux Romains, chapitre 6, verset 1. Paul, il dit... Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Alors Paul, il corrige cette mauvaise compréhension-là de la chose. Supposons qu'il y a un prédicateur... prêche la justification par les œuvres. Ça, on est tous conscients que c'est faux, ça. Il n'y a personne qui est justifié en faisant des choses. Il n'y a personne qui est devenu juste en faisant des choses. Personne. Mais disons qu'il y a un prédicateur qui prêche ça. Il va dire que si vous voulez être chrétien et aller au ciel, vous allez devoir arrêter de pécher. Vous allez devoir faire des bonnes œuvres. Puis si vous ne vous relâchez pas, bien, vous allez aller au ciel. Ce prédicateur-là, il n'y aura sûrement pas, il n'y aura pas à faire face aux risques qu'on a vus tantôt ici, là, quand je vous ai dit, ce que vous faites n'a plus aucune importance parce que vous êtes sauvés par la grâce. Ce prédicateur-là n'aura pas à se débattre avec ça parce que lui, il va avoir mis les choses au clair. Bien, clair, encore. Ça, c'est relatif, là. Mais sa prédication à lui, c'est « Tu vas au ciel en récompense de ce que tu as fait. » C'est là que c'est là que c'est que fautif. Sauf que les récompenses relèvent et relèveront toujours de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui récompense. Dieu est celui devant qui on va avoir à rendre des comptes pour tous nos agissements. Peut-être qu'il risque d'avoir des surprises en matière de récompense. Quelques-uns pensant être les premiers seront les derniers parce que, là, ce n'est pas à nous autres de juger ça, mais Dieu est capable de le faire. Lui. Pour certains, leur service aura été inspiré par la fierté ou l'orgueil ou l'ambition personnelle. Peut-être qu'il y en a qui agissent comme ça. Par contre, d'autres vont avoir servi, eux, par amour, par gratitude, même des fois dans l'anonymat complet. Il n'y a personne qui était au courant de ce qu'un tel ou une telle faisait au sein de l'Église. Personne ne le savait. Est-ce que Dieu l'a vu? Et lui seul est en mesure de donner les récompenses exactes et précises. Dieu sait tout et y voit tout. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Comment l'homme pourrait-il accuser Dieu d'injustice ou lui demander plus de justice? Après avoir lu une parabole comme ça. Compte tenu souvent que l'être humain, lui, il s'est montré injuste envers ses propres semblables. Alors, comment est-ce qu'il peut oser demander à Dieu d'être plus juste? Est-ce que c'est l'homme qui va dicter à Dieu la façon dont il devrait distribuer sa grâce? On est drôlement pas placé pour ça, nous. Est-ce qu'on pense que parce que Dieu fait grâce à ceux qui ne méritent rien ou pas grand-chose, qu'il va en avoir moins à donner aux autres? Souvent, dans notre façon de dealer, c'est comme ça qu'on pense. Mais il y a une chose qu'on doit se rappeler, c'est Dieu ne nous doit rien, surtout pas un salaire. Mais travailler pour lui, c'est une grâce. Exceptionnel, c'est un privilège. Quand on voit ça sous cet angle-là, c'est un privilège que Dieu nous donne. Peu importe ce qu'on fait. Un verre d'eau donné à un de ses petits, qu'est-ce qui va se passer? Dieu l'a vu, Dieu va récompenser. Le même verre d'eau donné par un autre pour se faire voir, lui vient de perdre sa récompense. Heureusement, ce n'est pas moi qui vais avoir à juger ça. Parce que moi, je me tromperai souvent. Alors, dans l'histoire qu'on vient de lire, Jésus invite chacun à saisir sa grâce et à se réjouir de ce qu'il nous accorde, sans jalousie, sans se comparer aux autres, et on ne mérite pas ce qu'il nous donne. C'est ça qu'on devrait se mettre dans la tête. On ne mérite pas ce qu'il nous donne. Si on pense qu'on mérite une telle chose, bien, plus que je vais en faire, mieux ça va être. On n'a pas compris la parabole qu'on vient de lire. Rappelez-vous du malfaiteur à la croix. Le malfaiteur sur la croix, il a bénéficié de la pleine bénédiction du ciel au même titre que celui qui a travaillé toute sa vie pour le Seigneur. Pensez-y comme fou, là. Qu'est-ce qu'il a fait? le malfaiteur à la croix? Qu'est-ce qu'il a fait? La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a reconnu son état. C'est juste ça qu'il a fait. Puis lui qui a passé sa vie entière à travailler pour le Seigneur, ils ont la même bénédiction dans le sens qu'ils vont entrer toutes les deux au ciel. Et si on pense que c'est pas juste, c'est exactement comme ça que la grâce fonctionne. Exactement comme ça. Une autre raison pour cette parabole, moi je vous dirais, c'est pour avertir l'Église d'aujourd'hui de ne pas tomber dans ce piège-là. Souvenons-nous que Dieu est venu pour chercher des pécheurs qui, à l'occasion, doivent encore lutter avec leurs mauvais penchants. Est-ce que c'est vrai, ça? Avez-vous à lutter encore aujourd'hui, même si vous êtes chrétien, vous êtes assuré du salut, vous allez au ciel? Devez-vous encore vous battre contre des mauvais penchants? S'il y en a un qui dit non, ben donne-moi ta recette. À travers toute l'histoire de l'Église contemporaine et évangélique, qu'est-ce qui fait que dans des églises, il y a eu des divisions puis des disputes? Puis on en connaît toutes. On en connaît toutes. Puis ça fait pas longtemps, ça fait les plus vieux ici, ça fait quoi, une cinquantaine d'années qu'on connaît le Seigneur? On a tous été conscients qu'à quelque part, il y a eu des divisions puis des disputes dans les églises évangéliques, chrétiennes. Dû à quoi? Souvent, c'était le désir d'être le premier. Ou on se comparait avec les autres. Moi, je serais demain, je ne ferais pas ça comme ça. Ou un esprit de compétition. Ça existe, ça, parmi les chrétiens? Ça peut exister. Pire encore, la jalousie. Là, je suis pas en train de dire, mais quelle sorte de monde que c'est, ça, ces chrétiens-là? Ce sont des pécheurs sauvés par grâce. Ce que Dieu attend des siens, c'est ce qu'on lit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Tournez là, si vous voulez. Là. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. C'est ça que Dieu attend des siens. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Alors, ce que Dieu attend des siens, c'est ça. Qu'on s'exhorte réciproquement et qu'on s'édifie les uns les autres, qu'on soit obéissant à ses commandements. Et un de ses commandements qui est capital, c'est « Aimez-vous les uns les autres, et non disputez-vous les uns les autres, parce que l'autre ne fait pas comme toi. Aimez-vous ardemment les uns les autres. » C'est ça que le Seigneur, c'est qu'il nous demande, et qu'on fasse tout ça avec un esprit d'humilité et de renoncement. Et cassez-vous pas la tête pour les récompenses. Dieu qui voit clair, il va donner les bonnes aux bonnes personnes au bon moment. Prions, Seigneur. Oui, Seigneur grand Dieu, on est tellement heureux de ce que toi-même tu puisses éclaircir nos cœurs, nos pensées, notre compréhension lorsqu'on lit les Écritures. Merci pour le travail que tu continues de faire. Merci pour la grâce que tu as fait couler sur chacun d'entre nous. On veut te dire que nous apprécions le salut que nous avons reçu et on veut que tu nous aides, Seigneur, parce que nous avons besoin d'aide pour marcher fidèlement à ce que tu nous demandes. Et c'est pour la gloire de ton bien-aimé Fils, le Seigneur Jésus-Christ, que nous te demandons ces choses. Amen.